Après trois éditions où il a été annulé, le Masters 1000 de Shanghai est de retour. Carlos Alcaraz tentera de reprendre la première place à la race à Novak Djokovic, sachant qu'en fonction de ses résultats à Pékin, l'Espagnol aura entre 270 et 580 points de retard. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le tenant du titre, Daniil Medvedev, qu'il faudra surveiller. Alors, qui va gagner? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si on reprend un peu l'historique du Masters 1000 de Shanghai, il faut savoir qu'en 2009, il va remplacer le Masters de Madrid qui était en indoor et Madrid va prendre la place d'Hambourg sur terre battue. Shanghai, c'est peut-être le Masters 1000 le plus rapide. Si on reprend un petit peu les statistiques des deux dernières éditions, c'est 83% de points gagnés sur première balle en moyenne et 0,63 ace par jeu. Par rapport aux stats qu'on a actuellement et au niveau des qualifications qui sont en train de se dérouler dans le Masters 1000 asiatique, on constate que c'est peut-être un petit peu plus lent que d'habitude parce que pour le moment c'est 70,2% de points gagnés sur première balle et 0,52 ace par jeu. Au niveau du palmarès, Djokovic s'est imposé 4 fois en 2012, 2013, 2015 et 2018, Murray 3 fois, dont un back-to-back entre 2010 et 2011 et ensuite il a cette édition de 2016 où il s'impose. Et Roger Federer, lui, s'est imposé 2 fois en 2014 et 2017. Et comme je te le disais en introduction, le tenant du titre, c'est Daniil Medvedev qui s'était imposé en 2-7 contre Alexander Zverev en 2019. Au-delà du fait que Shanghai va se dérouler comme une grande partie des Masters 1000 cette saison sur une dizaine de jours, ce qui fait que ça va rallonger un petit peu le tournoi et que ça crée beaucoup de longueur, je trouve, il va falloir quand même surveiller le Masters 1000 de Shanghai parce qu'il y a cette histoire de première place mondiale à la fin de l'année où là, ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz et surtout voir quels vont être les derniers qualifiés pour les ATP Finals parce qu'il reste pas énormément de tournois avant Turin et les deux plus gros, c'est Shanghai et le Rolex Paris Masters. Avant de passer au tirage au sort, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et en fonction des performances de ces dernières, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas sur des entreprises, mais sur des talents. Donc, tu as différents sports qui sont représentés, ça c'est intéressant pour pouvoir diversifier ton portefeuille. Nous, on va s'intéresser au tennis où tu as différents profils, du Daniil Medvedev, du Lorenzo Musetti, du Casper Ruud, également des Français, Corentin Moutet, Hugo Gaston. Donc tu vas investir dans un talent en achetant un ROI. Un ROI, c'est l'équivalent d'une action. Et en fonction des performances de ce talent, tu vas améliorer ton rendement. Par exemple, si le joueur performe dans les tournois qui ont eu lieu et également sur les réseaux sociaux, il fait le buzz, il y a un algorithme qui te calcule tout ça et par rapport à ton investissement initial, tu vas faire une plus-value. Donc c'est vraiment intéressant pour vivre une aventure particulière avec des joueurs que tu supportes, sachant que tu vas avoir des retombées économiques directes de leur succès. Donc c'est vraiment un concept novateur, je trouve, qui change par rapport à la bourse pour avoir des revenus passifs, bien évidemment. C'est une activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Je te laisse aller voir tout ça, je te mets un lien d'affiliation. Donc si tu passes par ce lien et une fois ta première transaction réalisée, donc l'achat d'un ROI qui en moyenne est à 2€, après ça peut dépendre un petit peu du succès du joueur, tu vas avoir accès à un bonus et ce bonus ça peut être l'acquisition d'un nouveau talent, de l'argent ou des cadeaux comme des AirPods. Encore une fois, un grand merci à Royalties pour la confiance qu'ils apportent à la chaîne Games & Talk. Pour info, à l'heure où je tourne cette vidéo, les demi-finales à Pékin n'ont pas eu lieu. Donc on va avoir Alcaraz contre Sinner et Medvedev contre Zverev. Je ne connais pas les résultats. Quand la vidéo sortira, les résultats seront connus. Mais je vais faire mes analyses par rapport à ce qu'on a pu voir sur le début de Pékin, à commencer par le quart de tableau de Carlos Alcaraz où il retrouve en tête de série Evans, Dimitrov, Khachanov, Tiafo, Jarry, Lejka ainsi que Fritz. Les coupeurs de tête, il y a Vukic, s'il arrive à retrouver un petit peu cette forme qu'il avait cet été, on sait qu'il apprécie ses conditions rapides avec son style de jeu. Et également la pépite chinoise de 18 ans, Zhujing Cheng, excusez-moi pour la prononciation, j'ai pas fait chinois en LV2, c'est vrai que son nom est pas facile à prononcer. Le quart de finale théorique, c'est Alcaraz contre Fritz. Et c'est vraiment la première fois en Asie pour notre pépite espagnole Carlitos, qui là est en demi-finale à Pékin, qui avant justement la ATP 500 de Pékin, c'était 21 victoires, 4 défaites sur dur. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il a retrouvé un petit peu son rythme de croisière après cette désillusion à l'US Open contre Daniil Medvedev en demi-finale. On sait que Carlos Alcaraz, il revient plus fort après une défaite. Il y a certains joueurs qui peinent à s'en remettre, mais lui, il apprend énormément. On se rappelle de cette déconvenue au Rolex Paris Masters contre Hugo Gaston, également cette année contre Novak Djokovic à Roland Garros. Et derrière, il a réussi à apprendre à capitaliser sur ça. D'autres joueurs, vont partir un petit peu en dépression, entre guillemets, vont avoir du mal à s'en remettre. Carlos Alcaraz, c'est totalement différent. Là, il a fait plutôt bonne impression, je trouve, à Pékin pour se hisser en demi-finale avec des victoires contre Anfan, Musetti, ainsi que Casper Ruud. Et les 7 les plus accrochés, ça faisait 6-4. Si on prend de la hauteur par rapport à son quart de tableau, on constate que les face-à-face contre les autres têtes de série sont favorables pour Carlos Alcaraz. 3-0 contre Evans, 3-0 contre Dimitrov, 3-0 contre Khachanov, 1-1 contre Tiafoe, 2-0 contre Jarry, 1-0 contre Laichka, 1-0 contre Fritz, soit 14 victoires pour une défaite contre l'ensemble des autres têtes de série de la partie de Carlos Alcaraz. Si on regarde un peu plus en profondeur son parcours potentiel, Borges ou Barrer au premier tour, Evans, ensuite Khachanov ou Dimitrov, et un quart contre Fritz, Jarry ou Tiafoe. Donc vraiment, c'est ultra abordable, je trouve, pour l'Espagnol, pour se hisser en quart de finale, voire en demi-finale, parce qu'il ne va pas forcément rencontrer des profils qui lui posent problème, d'autant plus sur une surface rapide, c'est-à-dire des joueurs qui l'agressent des deux côtés. Là, le seul qu'on peut voir, c'est potentiellement Jarry, mais il faut que le Chilien arrive en quart de finale. Il a fait une grosse semaine à Pékin, à voir s'il va réussir à enchaîner. Concernant Taylor Fritz, les conditions sont vraiment rapides à Shanghai et ne lui vont pas forcément 3 victoires, 3 défaites. Par contre, concernant l'Espagnol, la seule interrogation, c'est vraiment son physique. C'est 69 matchs disputés pour le moment cette saison. C'est quand même un sacré chiffre. À voir s'il arrive à tenir à ce régime-là jusqu'à la fin de saison avec son point d'or qui doit être cette place de numéro 1 mondial et des ATP Finals. Mais il va devoir quand même préserver son physique et ne pas trop tirer pour atteindre cet objectif de la première place mondiale. Tout à l'heure, je parlais de joueurs qui ont du mal à digérer leurs déconvenues. C'est exactement le cas de Stefanos Tsitsipas qui se retrouve dans le deuxième quart de tableau avec Humbert, Struff, Nori, Paul, Davidovich Fokina, Manarino ainsi que Rublev. Les coupeurs de tête, Popirin et Karatsev qui peuvent profiter de ces conditions rapides. Le quart théorique, Tsitsipas contre Rublev. Et c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment pour le grec qui est pas dans la meilleure période de sa vie avec une sorte d'émancipation par rapport à ses parents et notamment son père où il a essayé de le supprimer un petit peu du coaching et de prendre Philippe Poussis. Derrière, ça n'a pas fonctionné. Il l'a repris plus à côté son histoire d'amour avec Badoza. C'est un peu la crise d'adolescence du grec qui pour le moment n'a vécu que pour le tennis. Il reste sur 5 défaites sur ses 8 derniers matchs. Par contre, à Shanghai, il joue plutôt bien. 6 victoires, 3 défaites et à chaque fois ses déconvenues sont intervenues contre des gros serveurs. On sait que c'est le style de jeu qui lui pose problème. Ça a été Isner, Anderson et Medvedev. Il a fait une demi-finale ici même en 2019. Et Tsitsipas, je t'apprends rien. Il a des lacunes techniques côté revers sur une surface rapide comme ça. Les gros serveurs peuvent en profiter de servir plein revers de Stefanos Tsitsipas et ensuite de le prendre de vitesse dans cette diagonale-là. Par rapport à son parcours, Djere, Humbert, Struff, Nori, Davidovich Fokina, Rublev ou Manarino. Donc, il y a potentiellement un gros match au deuxième tour contre Hugo Humbert, le français qui adore ces conditions, qui a très bien performé à Pékin en faisant un gros match contre Daniil Medvedev. Et le concurrent direct de ce quart de tableau-là, c'est Andrei Rublev, 3 victoires, 3 défaites à Shanghai, 8e de finaliste ici même en 2019. Il a du mal dans ces conditions rapides, il l'avait dit, il n'a pas le temps d'exécuter son plan de jeu. Au niveau de son parcours, Karatsev, Manarino, Davidovich Fokina, pas évident. Franchement, à chaque match, il peut trébucher en fonction de la forme de ses adversaires. Au fait, si tu nous connais pas, nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton. C'est le moment ou jamais pour t'abonner, pour t'accrocher au wagon Game Stand Talk, sachant que l'on te promet une couverture complète de la fin de saison avec bien évidemment Shanghai, le Rolex Paris Masters et surtout les ATP Finals. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Au niveau du troisième quart, c'est celui d'Holger Rune où il retrouve Hubbanks, Grigspoor, Demi-Nord, Jurkacz, Musetti, Echeverry ainsi que Casper Ruud. Les coupeurs de tête, j'ai noté Kokkinakis qui peut être dangereux dans ces conditions rapides. Le quart théorique Ruud contre Rune. Et c'est vrai qu'Holger Rune, c'est très compliqué pour lui en ce moment. Il a eu des hauts et des bas cette saison avec des grosses performances en Masters 1000. Ce quart à Wimbledon également avec ce quart à Roland-Garros, il a eu des grosses déconvenues. Mais par contre, c'est physiquement que ça tire, notamment au niveau du dos. Il a dit qu'il avait commencé un traitement, que ça allait un petit peu mieux. À Pékin, il a cette désillusion contre Grigor Dimitrov. Mais je pense que la saison doit se terminer pour lui pour vraiment récupérer, se soigner et commencer au mieux 2024. D'autant plus que dans le dur extérieur, il est moins performant que sur du dur intérieur. On se rappelle de sa série folle en fin de saison dernière avec ce titre au Rolex Paris Masters. Au niveau de son parcours, pour lui qui découvre l'Asie, sachant que la dernière fois que Shanghai se jouait, ben il était presque pas né, Holger Rune. Il jouerait Nakashima, Zeng ou Echeverry, Hurkacz ainsi que Rude. Donc un tableau qui peut être piégeux, d'autant plus que chaque match peut être piégeux pour l'ami Holger Rune. En ce moment, il n'y a pas de match facile pour lui. Il a du mal à retrouver cette confiance qu'il avait sur ce premier trimestre où il avait fait très mal sur terre battue. Donc il peut trébucher un petit peu sur n'importe quel adversaire. Et Casper Ruud, qui lui aussi peine cette saison. Et je pense que la saison doit se terminer pour le Norvégien pour qu'il puisse récupérer, préparer cette saison 2024, ce qu'il n'a pas su faire l'année dernière. Ben, il n'avait pas joué Shanghai non plus en 2019. Il a bien commencé contre Alcaraz à Pékin, sachant qu'il était en quart de finale. Il a mené 3-0 et derrière il va inscrire seulement 3 jeux. Pour la Casper Ruud, il lui manque de la confiance, même s'il a fait cette finale à Roland Garros. Au niveau de son parcours, Nishioka, Banks, Hoffman, Alex de Minaur, donc pas évident. S'il y a des joueurs qui arrivent justement à profiter de ces conditions rapides, notamment sur le revers de Casper Ruud pour l'empêcher de se décaler, ça peut être compliqué pour le Norvégien. Le dernier quart de tableau, c'est celui du tenant du titre, Daniil Medvedev, qui retrouve Sinner, Baez, Zverev, Chelton, Ojaliasim, Cerundolo, ainsi que Korda, les coupeurs de tête, Safulin ou Murray, sachant que c'est une affiche du premier tour et que le gagnant retrouvera Alexander Zverev, le quart théorique, Sinner contre Medvedev. Et Medvedev, lui, il adore ses conditions à Shanghai. 6 victoires, 2 défaites, sachant que ses seuls 2 déconvenus, ben, c'était contre Puig en 2017 et Roger Federer en 2018. 39 victoires, 6 défaites sur dur avant Pékin. Et il est en demi-finale, là à Pékin, il va jouer Zverev. On a l'impression qu'on a des Medvedev-Zverev à chaque tournoi. Cette saison, il a eu un match accroché justement contre Hugo Humbert en 3-7 en quart de finale. Mais on sait, sur la fin de saison, c'est là où il est le meilleur Medvedev. Il a eu cette finale à l'US Open, il joue très bien sur dur. Cette saison, au niveau de son parcours, Garin, Korda, potentiellement au deuxième tour, l'Américain qui est toujours en lice à Astana, sachant qu'il est en finale, Ojaliasim s'il se réveille, et Sinner. Donc il a un très bon tableau, le Russe, pour aller jusqu'en quart de finale, sachant qu'il a des adversaires qui sont pas forcément en forme ou qui ont accumulé beaucoup de matchs, beaucoup de temps de jeu la semaine avant Shanghai et qui peuvent perdre à tout moment. Au niveau de Sinner, qui lui aussi, il y a toujours cette interrogation physique, cette capacité à enchaîner, qui est en demi-finale à Pékin contre Carlos Alcaraz, ça serait Giron au premier tour, Baez ensuite, Zverev ou Shelton. Pas mal pour l'Italien qui pourrait quand même enchaîner et pourquoi pas aller en quart de finale, parce que ben, la principale menace c'est Alexander Zverev, sauf que Zverev, lui, il va jouer d'entrée Safiulin ou Murray puis Shelton, et ensuite, donc ça serait l'Italien, donc vraiment pas évident pour l'Allemand qui enchaîne en plus les tournois. Il s'est imposé à Chengdu, là il est en demi-finale à Pékin contre Daniil Medvedev, et je pense que ça va craquer à un moment, sachant qu'à Pékin il a fait que des matchs en 3-7, contre Schwartzman, contre Davidovich Fokina et contre Jarry, donc ça risque de tirer, même si Alexander Zverev apprécie forcément ses conditions à Shanghai où il avait fait une finale en 2019. Mais je pense que c'est pas mal ce tableau pour Medvedev et Sinner pour rallier les quarts de finale. On arrive à la partie imprévisible, les pronostics, les amis, les cartes théoriques, Alcaraz, Fritz, Tsitsipas, Rublev, Rune, Ruud, Medvedev, Sinner, et les cartes que je vais pronostiquer. Je vais prendre beaucoup de risques, mais je pense qu'il y aura des surprises. Alcaraz, Jarry, Humbert, Davidovich Fokina, de Minaur, Hurkacz et Sinner, Medvedev, avec des demi-finales Alcaraz, Davidovich Fokina, Hurkacz, Medvedev, et une finale Alcaraz, Medvedev, avec Alcaraz qui s'impose à Shanghai pour sa grande première dans ce Masters 1000. Comme tu peux le voir, je me suis mouillé. N'hésite pas à me dire tes pronostics dans les commentaires. Je suis curieux de voir ça. Bien évidemment, le grand absent de ce Masters 1000 à Shanghai, c'est Novak Djokovic. Si tu veux revivre son 24e sacre en majeur à l'US Open, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.